création on air. On air. On air. Creation on air.
Bonsoir. Nous regardons les magasins cramés à l'écran. Ça date de ce matin, c'est tout frais. Et je me sens bien. Je me sens bien parce que j'aime l'Amérique. Je suis heureux de voir qu'elle bouge, qu'elle a mal, qu'elle va peut-être se réveiller. Je ne sais pas ce que sera la nouvelle Amérique, mais je sais que l'explosion noire l'empêchera de pourrir sur pied dans l'immobilisme des structures sclérosées aux sapes invisibles. L'Amérique sera sauvée par le défi noir, ce challenge dont parle Toynbee, que les civilisations relèvent en se transmutant, ou bien elles périssent. Cet extrait de Chien blanc est la phrase choisie par Yann Perrot en avant-goût de ses deux œuvres de création consacrées à Romain Gary. La première, disponible en ligne et en podcast, a été diffusée le 9 mars. La seconde nous entraîne ce soir de la conquête ratée d'Hollywood aux révoltes des années 60. Les aventures américaines de Romain Gary par Yann Perrot et Rafik Zénine.
On vit moins une vie qu'on est vécu par elle. J'ai l'impression d'avoir été vécu par ma vie, d'avoir été objet d'une vie plutôt que de l'avoir choisi. Et en plus de cela, avec la notoriété, on est donc manipulé par la vie elle-même. Personnellement, je sais que j'ai eu très peu de choix dans la vie, que c'est l'histoire au sens le plus général et à la fois le plus particulier et quotidien du mot qui m'a dirigé, qui m'a en quelque sorte embobiné.
Le spectacle hollywoodien m'a fait comprendre dans le cours de ma vie, à quel point les trois quarts de la vie politique actuelle, de la vie idéologique, sont des spectacles. Je suis donc resté consul général de France pendant près de 4 ans à Los Angeles. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Jean Seberg, qui venait de tourner Jeanne d'Arc, Bonjour Tristesse, et qui a connu un triomphe dans À bout de souffle. À ce moment-là, ma vie s'est compliquée d'une telle façon qu'il a fallu choisir. Je ne pouvais pas être à la fois romancier à part entière, diplomate à part entière, et d'autre part, j'étais marié à une jeune femme qui, à l'époque, de 24 ans plus jeune que moi, était une vedette de cinéma qui tournait dans des pays divers. Et il fallait donc ou bien endurer les séparations, ou bien la suivre dans des lieux de tournage aussi lointains parfois que la Colombie.
She wore blue. Bluer than velvet was the night. Softer than satin was the light from the stars. She wore blue velvet. Bluer than velvet were her eyes. Warmer than May, her tender sighs. Love was ours. Ours, love I had.
Rockville, Maryland, côte est des États-Unis, printemps 63. Te voici donc de retour en Amérique. Tu es venu incognito, tu accompagnes
la petite américaine,
comme tu l'appelles, sur le tournage du nouveau film de Robert Rosen, Lilith. Jean incarne un schizophrène qui ensorcelle un infirmier, ce beau gosse aux allures de crétin qu'est Warren Beatty. Variation sur le thème de Lilith, figure démoniaque de la sensualité qui, dans la tradition juive, attire dans son piège de destruction et de folie tous les hommes qu'elle séduit. Atmosphère étouffante, malsaine sur le plateau. Ton épouse n'est là que parce que la Columbia a insisté. Warren Beatty et Rosen lui préféraient Natalie Wood ou Sarah Miles. Ça a vite dégénéré. Beatty est jaloux de ta femme, qu'il accuse de lui voler la vedette. Quand tu apprends la brutalité avec laquelle l'acteur s'enthousiasme à frapper sa partenaire lors d'une scène violente, au point de lui laisser des bleus, tu exiges d'assister au tournage du matin au soir.
« If you should discover that your God loved others as much as he loved you, would you hate him for it? I show my love for all of you and you despise me.
Tu n'as pas non plus la moindre sympathie pour le réalisateur. Tu connais sa collaboration avec la Commission des activités anti-américaines qui sévit en ce moment à Hollywood. Les sévices infligés à la sorcière Lilith, créature du diable, dans le film, te rappellent la chasse aux sorcières du sénateur McCarthy dans la réalité. Une pointe de jalousie se glisse là-dedans. Tu as du mal à supporter que ton épouse éveille tant de désirs chez ses partenaires. Pour toi, comme tant d'autres, la jalousie est devenue ce poison qui ronge le cœur et obsède l'esprit. Impossible d'écrire, tu es malheureux. Voyage désastreux donc, hormis une rencontre extraordinaire qui vous marquera tous les deux. En août, vous recevez une invitation de la Maison-Blanche, en petit comité, avec le président Kennedy. Bien qu'on eût fait envoyer une limousine à l'aéroport, vous arrivez avec une demi-heure de retard. Penaud, tu entres dans la grande pièce. On t'assied à table, en face du président. Tu es fasciné par cet animal au sang-froid, séducteur aussi insatiable que toi, mais qui sait, lui, dissimuler ses névroses derrière son sourire impénétrable.
Le regard bleu acier est posé sur moi fixement. C'est un regard d'une lucidité extrême qu'il est facile de prendre pour de la froideur. Nous sommes dans la salle à manger de la Maison Blanche. Le repas vient à peine de commencer, la conversation aussi. Nous n'avons même pas eu le temps de bavarder. Kennedy vous interroge plus qu'il ne vous parle.
Plus tard, au salon, Autant fera un cigare avec le café. Tu déclines et sors le tien que tu te fais envoyer de La Havane. C'est formellement interdit, étant donné les relations entre Cuba et les États-Unis, mais JFK ne dit rien. Il semble se parler à lui-même, comme s'il préparait déjà un discours à venir. Il évoque sans détour la ségrégation des 17 millions de Noirs aux États-Unis.
Cet homme,
constates-tu,
va changer l'Amérique.
De retour en France, tu tiens à partager ton amour des États-Unis avec tes compatriotes. L'occasion se présente lors d'un congrès organisé par l'Union pour la Nouvelle République, mouvement politique de tendance gaulliste fondé par Jacques Chaban-Delmas. Lors de cette conférence, tu évoques notamment avec enthousiasme la jeunesse américaine.
L'Amérique, à l'heure actuelle, aujourd'hui en plus, est, à mon avis, à la veille d'une renaissance artistique extraordinaire. Il y a 300 000 peintres en Amérique. Il y a un goût pour l'art, un amour de l'art, une passion pour l'art que notre pays, blasé, fatigué à cet égard, puisque nous sommes comblés depuis plusieurs siècles, ne connaît pas. Chez nous, la passion est plus politique dans les milieux littéraires. Dans la jeunesse américaine, elle prend la forme artistique. Il y a un bouillonnement dans cette jeunesse, il y a des expositions de peinture qui se suivent à un rythme extraordinaire, et c'est allé à un point où il devient de plus en plus difficile pour un peintre en Amérique de mourir de faim. Je crois que c'est même à peu près impossible. Les marchands de toiles sont tous aux aguets. Dès qu'un garçon manifeste la moindre preuve du talent, il a tout de suite son contrat et sa galerie de peinture. Et en tout cas, dans les universités, vous voyez des cours d'art où souvent se manifeste un talent très original et assez différent, assez libre des influences européennes. Je crois, le phénomène de la musique américaine est connu, je n'ai pas à m'étendre là-dessus, mais je crois sincèrement que de tous les pays du monde, c'est l'Amérique qui va nous surprendre le plus dans les années qui viennent, et certainement dans le domaine de la peinture.
Silence glacial, malaise dans l'audience qui ne souffle mot. À la fin de ton allocution, seule une fillette de 12 ans applaudit. Anti-américanisme primaire de la France gaulliste, envieuse de l'oncle Sam, qui est en train de la dépasser sur tous les plans. Quelques instants plus tard, dans la voiture d'une amie, la radio.
Il semble que quelque chose est arrivé au cortège présidentiel. Je répète, il s'est produit quelque chose. Des gens courent sur la colline le long d'Elm Street, près de l'autoroute. Je vois des agents qui courent aussi sur la colline. Ne quittez pas l'antenne. Quelque chose s'est passé dans le cortège présidentiel. Ne quittez pas l'antenne.
Il est 12h30. Sur l'une des principales chaînes de télévision, l'émission Le Monde tourne est interrompue.
Voici un communiqué du journal télévisé de CBS. À Dallas, dans le Texas, 3 coups de feu ont été tirés sur le cortège officiel du président Kennedy au centre de la ville. Les premières dépêches annoncent que le président a été grièvement blessé. D'autres dépêches viennent d'arriver. Elles disent à peu près la même chose. On a tiré sur le président Kennedy au moment où le cortège officiel quittait le centre de Dallas. Madame Kennedy s'est dressée brusquement et a pris Monsieur Kennedy dans ses bras en criant « Non, non !» et le cortège officiel a poursuivi sa route.
JFK est mort. Tu t'effondres en sanglots. De retour au dîner, ceux qui te toisaient il y a une heure t'applaudissent désormais chaleureusement.
Pas mal écrit pour Hollywood, mais fort peu, à part le jour le plus long de Zanuck, fort peu de mes scénarios ont conservé une intégrité, une intégralité plus exactement quelconque, et j'ai presque toujours retiré mon nom du générique.
Le jour le plus long, récit de la libération de la France par les Alliés en 45.
Qu'est-ce que c'est que cette énergumène ?
Oh, mes amis, quelle journée, quelle journée ! Bienvenue en France, bienvenue à Colville !
C'est très, très gentil à vous, je suis très content de vous connaître.
Regardez ça, voyez-vous. Je l'ai gardé pour vous tous, mais je ne crois pas qu'il y aura assez de champagne pour tout le monde.
Peut-être la prochaine fois, voyez-vous, nous avons déjà un rendez-vous avec la guerre. Oh ! Il ne faut pas gâcher ce champagne, voyons. Allez, les enfants, en avant ! Méline, l'eau de l'Est !
Oh, ça. Merci, mes amis. Merci. Vive la France. Vive la France. Vive les Alliés.
Si tu veux mon avis, Flanagan, je te dirai qu'il y a vraiment de drôles de numéros dans ce patelin.
Bienvenue. Bienvenue à vous tous.
C'est sans doute le personnage du brave maire de Colville, merveilleusement incarné à l'écran par Bourville, qui te ressemble le plus. Insouciant, d'un héroïsme presque naturel, burlesque aussi, avec sa bouteille de vin et son casque de pompier, il court accueillir les alliés en ignorant les balles qui filent à ses côtés. Je t'imagine écrire ce rôle en pensant à l'un de tes camarades de la Résistance, ces compagnons de la Libération que tu aimeras toute ta vie comme des frères.
Quelques années plus tard, alors que j'avais quitté la carrière, et que j'avais fait une bonne vingtaine de scénarios pour ces messieurs, je travaillais sur le jour le plus long, pour le même Zanuck. Ce petit homme est prodigieux comme producteur, comme amour de cinéma. Il met pendant le travail tous les moyens à ta disposition. Et je l'aimais bien aussi parce que c'était le zizi le plus romantique d'Hollywood. Quand il s'attachait à une fille, il jetait le monde à ses pieds. Il avait sauvé plusieurs fois du suicide son ex-amie Bella Darvi, en payant ses dettes de jeu. Et puis, un beau jour, il est arrivé trop tard et Bella Darvi a eu le temps de se tuer. Mais si c'était un grand producteur, il se prenait aussi malheureusement pour un auteur. Et il écrivait comme un cochon, comme un vrai cochon. C'était incroyable, ce qui sortait de sa plume. Chaque fois que je lui remettais un fragment du scénario, il y apposait sa marque fatale, en faisait quelque chose d'aussi inepte que possible. Alors, à partir d'un moment dans nos rapports professionnels, chaque fois que l'on se réunissait pour discuter, je sortais de ma poche une banane et je la mettais sur la table. Finalement, il me demande « Pourquoi mettez-vous toujours cette banane sur la table? Vous ne la mangez jamais. » « C'est pour me rappeler, lui dis-je. »« Vous rappelez quoi ?»« Écoutez, Daryl, vous êtes habillé décemment. Un pantalon, un veston, une cravate... Vous avez même un visage et vous parlez notre langage. Alors, chaque fois, je tombe dans le piège. j'oublie que vous êtes un gorille. Et donc, je place cette banane devant moi pour me rappeler à qui j'ai l'honneur. À partir de ce moment-là, il mettait lui-même un plat de bananes sur la table, chaque fois que je venais discuter. Heureusement pour moi, j'étais indépendant. Mais je comprends que lorsque William Faulkner ou Scott Fitzgerald étaient à la merci de ces petits tyrans, ils sombraient dans le désespoir et l'alcool.
Es-tu pourtant aussi surpris que tu en as l'air, Romain ? Rafraîchissons-nous la mémoire et réécoutons ce que tu dénonçais il y a quelques années à peine.
Mais est-ce que vous n'avez pas eu envie, vous, de faire un scénario original pour Hollywood pendant que vous y étiez ?
Ah non, alors !
Pourquoi ?
Parce que je vais vous dire, je vais faire un scénario, je vais leur donner le scénario, et après je vais commencer à souffrir, parce que je vais souffrir. Et je n'ai aucune envie de souffrir, parce que le scénariste n'est pas maître de son sujet à Hollywood, le metteur en scène n'est pas maître de son sujet à Hollywood, c'est le producteur.
Oui.
Le producteur, souvent, sait lire. Ça, je ne veux pas dire, vous comprenez, je ne veux pas dire, il faut tout de même pas me faire. Souvent, il sait lire, mais enfin, pas toujours.
Pourquoi alors t'es-tu jeté, en connaissance de cause, dans la gueule du loup ? Il y a d'abord cette part féminine, dont tu diras qu'elle est ta seule véritable passion. De fait, les femmes qui ont compté pour toi furent des comédiennes, de ta mère Nina à ta jeune épouse. Jean te pousse à franchir le pas et à la rejoindre, te mettre derrière la caméra et la filmer, toi qui enrages de l'avoir si mal comprise par ses metteurs en scène machos, qui la considèrent comme une femme objet. Il y a ensuite cette dimension proprement fausse du
« spectacle hollywoodien »,
terrain de jeu idéal pour l'homme caméléon que tu es, toi qui passes ton temps à changer de peau, t'avancer masqué, t'inventer des personnages. La vie est une comédie, comme tu intitules ta trilogie américaine, un véritable jeu de dupes. Hollywood en est l'incarnation la plus authentique, en quelque sorte la plus vraie. Qu'y a-t-il de plus agréable au fond, comme tu l'écris, après ?
Une empoignade littéraire avec soi-même. Que d'aller au cirque, car Hollywood avait été conçu et avait grandi dans la grande tradition du cirque américain, de Barnum. Et ses patrons, tant qu'il y en a eu, sont restés des hommes de cirque.
Ces clowns lyriques, auxquels tu dédieras un livre éponyme, sont des créatures qui te fascinent. Il y a notamment Billy Wilder, qui te donnera ta
meilleure leçon de cinéma. De tous les hollywoodiens, il avait sans doute l'esprit le plus mordant. J'étais allé le voir pendant le tournage d'un film sur la traversée de l'Atlantique par Lindbergh, The Spirit of Saint Louis. Dans l'avion, il y a Jimmy Stewart aux commandes. On fait balloter la maquette d'avion dans la tempête, des machines jettent de la neige, d'autres machines sèment le vent. Billy Wilder me dit « Regardez, ça, c'est le cinéma. Qu'est-ce que vous voyez ici ? Un faux Lindbergh, un faux avion, un faux ciel, une fausse tempête et une fausse neige. Et à l'écran, qu'est-ce que ça va donner ? Un faux Lindbergh, un faux avion, un faux ciel et une fausse tempête de neige. »
Il y eut aussi John Ford.
Il m'avait amené, il était grand amateur des Indiens, spécialiste des Indiens, il m'a amené voir d'une tribu d'Indiens Hopi dont j'ai les Kachina encore, les petites poupées ici dans mon salon. Et il m'a dit, personne n'est jamais venu ici, vous allez voir des Indiens à l'état nature, dans la réserve d'Arizona. Et nous sommes arrivés, on nous a fait des danses assez extraordinaires, après quoi le chef de la tribu a fait venir deux de ces Indiens qui ont enlevé leur masque. Il me les a présentés et dit, ceux de là ont fait la libération de Paris. Vous voyez à quel point tout cela pouvait être authentique. Mais j'aimais beaucoup John Ford, et alors c'est là que j'ai pris le pli du cinéma, alors au point de vue technique, puisque je traînais énormément quand j'avais le temps libre sur les plateaux avec lui et avec d'autres. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis intéressé d'une manière plus directe au cinéma, que j'ai décidé de faire de la mise en scène.
Comme tu l'expliques à un journaliste du New York Herald.
Quand j'écris, je vois, je décris aussi précisément que possible mon paysage intérieur. Je tente de le fixer dans ses moindres détails. L'écran est le médium parfait d'une recherche du réalisme.
De la page à l'écran, tu aimerais instaurer des allers-retours, les films inspirant tes livres et vice-versa. Tu espères ainsi réussir là où tant d'écrivains ont échoué. Or, c'est un véritable drame que tu vivras. Échec sur toute la ligne dans ta rencontre avec le 7e art. Je ne veux pas seulement parler de la
saloperie du métier,
comme tu nommes ton boulot de rafistoleur de scénario, mais des adaptations de tes livres, qui sont des bides cuisants. Des racines du ciel, tu retires furieux ton nom de l'affiche. Lady L, superproduction aux moyens faramineux, avec Sophia Loren, Paul Newman, Michel Piccoli, fera un four. Et puis, Dressé pour tuer de Samuel Fuller sera un autre désastre. Tes propres longs-métrages, enfin, Kill et Les oiseaux s'en vont mourir au Pérou, seront éreintés par la critique, snobés par le public. Ils ne resteront pas dans l'histoire. Pour l'instant, tu te détournes d'Hollywood et du cinéma. Il se passe des choses autrement plus graves en Amérique, depuis l'assassinat de JFK. Quand tu reviens en Californie en 1965, tu trouves un pays au bord de l'explosion. La contestation s'est étendue à toute la société, les campus des universités sont en ébullition. C'est ta femme qui t'ouvre les yeux. Si tu prends parfois la pose du vieux qui en a vu d'autres et à qui on ne la fait pas, Jean est pour sa part engagée, passionnée, idéaliste comme l'est cette jeunesse américaine qui s'insurge contre la guerre au Vietnam, désespérée par ce que fait son pays. Tous ces bouleversements se retrouvent dans tes livres. Ça donnera d'abord Adieu Gary Cooper, deuxième opus de ta trilogie, écrit en anglais, qui paraît en 1964 outre-Atlantique.
I see a line of cars and they are painted black, with flowers and my love hope never to come back.
I see people turn their heads and quickly look away, like a newborn baby, it just happens every day.
I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black.
Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black.
No more will my green seagull turn a deeper blue.
C'est le Vietnam ? Pas spécialement, c'est plutôt l'affiche. Quelle affiche ? Vous savez, celle que Kennedy fait coller partout. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez « qu'est-ce que je peux faire pour mon pays ?» Dès que j'ai reçu ça un matin à 7h30 sur un mur, j'ai foutu le camp. Aussi vite et aussi loin que j'ai pu.
Lenny est ce jeune Américain, ce skibum, hobo, qui a fui son pays pour ne pas partir à la guerre. Il s'est réfugié en Suisse, où il skie avec ses potes, sur les sommets enneigés. Il ne redescendrait pour rien au monde sur Terre.
Tu veux que je te dise, Lenny ? C'est fini, Gary Cooper. Fini pour toujours. Fini, l'Américain tranquille, sûr de lui et de son droit, qui est contre les méchants toujours pour la bonne cause, et qui fait triompher la justice et gagne toujours à la fin. Adieu, l'Amérique des certitudes. Maintenant, c'est le Vietnam, les universités qui explosent et les ghettos noirs. Ciao, Gary Cooper. Les gars se taisaient. Lenny leur tournait le dos, faisait mine de fouiller dans son sac. Kennedy peut bien nous faire chier avec sa nouvelle frontière, c'est bye-bye. Héros tranquille, sans peur, sans reproche et solide comme un roc. Maintenant, c'est Freud, l'angoisse, le doute et la merde. L'Amérique a rejoint. Gary Cooper est mort avec ceux qu'il représentait. L'Amérique des certitudes tranquilles. On est tous paumés. La nouvelle frontière, c'est le LSD. Alors, toi et la photo, pourquoi pas la Bible pendant que tu y es ? Il prenait les autres à témoin. Vous vous rendez compte que ce mec a laissé l'Amérique loin, loin derrière lui ? Mais qu'il a tout de même emporté la photo de Gary Cooper ? C'est pathétique. Fous-lui la paix, Bug. Quelqu'un, une fille, avait dit à Lenny qu'il était asocial. La vérité était que tout ce qu'on peut dire de vous ou de n'importe qui était toujours à côté. Tous leurs trucs de A jusqu'à Z, et encore il fallait se méfier de l'alphabet, étaient absolument mystérieux incompréhensible, avec seulement les montagnes qui dépassaient, et pour le reste, c'était un immense Madagascar, avec des vierges et des poissons qui vous guettaient au tournant. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était serrer les fesses et être extrêmement poli avec l'ennemi, pour qu'il ne vous foute pas votre aliénation en l'air. Parce qu'ils n'aiment pas ça, l'aliénation. Ça les vexe. Ils veulent qu'on soit tous dans le même pétrin, qu'on barbote avec eux dans la démographie, qu'ils appellent fraternité, sauf pour les Noirs. Buck disait que l'Amérique avait enfin découvert l'absurde et l'angoisse de l'être. Adieu, Gary Cooper. Lenny n'aurait jamais dû sortir la photo de Coupe devant les gars. Il l'emmerdait sans cesse avec ça. Il ne savait d'ailleurs pas pourquoi il la trimbalait, cette photo. Peut-être à cause de la dédicace à Lenny, son ami Gary Cooper. Lenny avait 11 ans quand il avait reçu sa photo, après avoir écrit une longue lettre où il disait que lui aussi voulait être cow-boy. Marrant.
Six days of rioting in a Negro section of Los Angeles left behind scenes reminiscent of war-torn cities. More than 100 square blocks were decimated by fire and looters, and few buildings were left intact. Firemen were harassed by snipers and brick-throwing hoodlums as they attempted to control the fires, many of which were left to burn themselves out. As the National Guard moved in to restore comparative calm, the losses by fire alone were put at $200 million. No attempt has yet been made to estimate the losses suffered at the hands of the looters who stole everything from liquor to playpens.
À Los Angeles, Watts, la banlieue sud de la ville, est à feu et à sang. Troisième et dernier tome de ta trilogie américaine, Chien blanc couvre cette période tumultueuse de ta vie, où ta femme, militante engagée auprès des Black Panthers, se fait fliquer par le FBI autant qu'escroquée par ceux qu'elle défend et finance généreusement. L'histoire commence avec l'arrivée d'un chien chez vous.
C'était un berger allemand. Il entra dans mon existence le 17 février 1968 à Beverly Hills, où je venais de rejoindre ma femme Jean Seberg pendant le tournage d'un film. Ce jour-là, une averse démesurée, comme le sont la plupart des phénomènes naturels en Amérique lorsqu'ils s'y mettent, s'était abattue sur Los Angeles, transformée en quelques minutes en une cité lacustre où les Cadillacs déchus rampaient piteusement, écrasant l'eau. La ville avait pris cet aspect incongru des choses destinées à un tout autre usage, auxquels nous ont habités depuis longtemps les surréalistes. J'étais inquiet pour mon chien Sandy, qui était parti la veille pour une tournée de célibataires du côté de Sunset Strip et n'était pas encore rentré. Sandy était demeuré puceau jusqu'à l'âge de 4 ans, grâce à l'influence de notre milieu familial hautement moral, mais une garce de Doheny Drive lui avait fait perdre la tête. 4 ans d'éducation bourgeoise et de principes exemplaires était passé par la fenêtre en deux coups de cuillère à peau. Ce chien est une nature simple, crédule, fort mal armée pour affronter les milieux de cinéma de Hollywood.
Il semble être un bon chien, jusqu'au jour où un garçon vient nettoyer la piscine chez vous. Fou de rage, le chien lui saute à la gorge. L'homme était noir. Vous découvrez, avec horreur et stupéfaction, qu'il s'agit d'un chien blanc, comme on les appelle à l'époque, ces bêtes dressées par la police pour s'attaquer exclusivement aux Noirs. Samuel Fuller en tirera un long métrage, White Dog.
That's a white dog!
Of course he's a white dog.
I don't mean his color. He's going to attack and kill black people!
Le film sortira peu après ta mort et fera lui aussi un bide.
Qu'est-ce en Amérique qu'un chien blanc?
Eh bien, j'ai des discussions jusqu'à ce moment, jusqu'à ce jour, avec mes amis américains. En réalité, c'est un terme assez récent qui est apparu au cours des premières manifestations des droits civiques noirs, les fameuses marches dans le Sud, patronnées par Luther King. Et la police employait deux méthodes. Il y avait d'abord les bâtons à électrodes pour écarter les manifestants, et deuxièmement, des chiens de police spécialement dressés. Et peu à peu, c'est un terme, un mot nouveau qui est apparu récemment dans le vocabulaire du Sud. Les Noirs ont appelé ces chiens, ont surnommé ces chiens de police, ces chiens d'attaque, chiens blancs, parce qu'à leurs yeux, évidemment, ils étaient dressés uniquement contre les manifestations des Noirs.
Et ce chien apparaît au tout début de votre livre. Il est amené chez vous par un autre chien, par votre chien.
Sandy, à qui d'ailleurs j'ai dédié le livre, qui est toujours chez moi à Paris.
Hollywood, un soir comme les autres, chez vous. Tu rentres du plateau lessivé. Tu as ramé une fois de plus pour défendre tes idées face à un producteur borné sur cet énième scénario qu'on t'a demandé d'arranger.
Il y a encore une réunion de militants dans le salon. Jean Seberg appartient depuis l'âge de 14 ans à toutes les organisations de lutte pour l'égalité des droits. Cela crée entre nous un problème grave. Comme j'ai accompli mon parcours et mes culbutes fraternelles entre 17 et 30 ans, et qu'il y a entre elle et moi 24 ans de différence, je refuse absolument de revivre cette lente agonie encore une fois. J'ai connu trop de chutes, et je n'ai pas envie d'assister aux siennes. Quand j'entre dans le salon, on se tait, avec juste raison. J'ai une tête où ça se voit. Je veux dire, il suffit de me regarder pour sentir une certaine froideur. Car je sais qu'il y a dans les bons camps autant de petits profiteurs et de salauds que dans les mauvais.
Il y a aussi ceux qui sont là pour se donner bonne conscience et s'afficher par la même occasion aux yeux du grand public. C'est chic à Hollywood de défendre une cause.
C'était dans la maison d'un producteur à Bel Air et la réunion était présidée par Coretta Martin Luther King et par le pasteur Abernathy. Il y avait là tout Hollywood. Au premier rang, Marlon Brando, avec son épouse tahitienne. Une veste de cuir fauve, une crinière de lion, un col roulé qui lui avantage le menton. Il fut un des premiers à se dépenser pour la cause noire. Je mets le mot entre guillemets, par pudeur, il a trop servi. Il est à demi-mort. Il va au micro, un regard sévère à la salle. Ceux qui ne sont pas là ce soir, il vaut mieux qu'ils aient une bonne excuse. La menace jette un malaise, c'est un peu joué. Mais le pire est à venir. Après quelques mots sur les enfants du monde que la sous-alimentation mène à la dégénérescence, Brando a soutenu l'UNICEF avec une générosité inlassable, il demande des volontaires pour faire partie du comité directeur chargé d'assurer la continuité de l'effort qui est tenté ici ce soir. Sur 300 personnalités présentes, 30 mains se lèvent. Ceux qui n'ont pas levé la main, foutez-moi le camp d'ici. Comme à chaque fois qu'un homme se conduit comme une petite frappe, j'ai le sentiment de perdre la face moi-même. Je comprends bien que Marlon Brando entendait mimer ainsi l'attitude dos au mur des panthères noires. Mais chez un millionnaire qui ne risque même pas un coup de pied au cul, cela ne faisait même pas panthère blanche. Cela faisait caniche de salon qui pisse sur le tapis. Planait sur tout cela le visage d'une extraordinaire beauté et le triste sourire à peine esquissé de Coretta Martin Luther King.
Romain, j'ai moi-même assisté à ce genre de cirque. Je me souviens notamment de ce gala de charité pour Haïti. J'étais alors attaché au consulat général de France. Ma petite amie de l'époque était la seule noire parmi la centaine de convives ce soir-là. Je sentis l'étroitesse d'esprit de ceux qui prétendaient défendre de nobles causes, tout en s'offusquant du look de ma compagne, qui ressemblait, il faut le préciser, à Grace Jones avec sa crête punk. On pourrait presque te prendre pour un cynique, Romain Gary. Or, si tu es intraitable avec les hypocrites, c'est parce que tu soutiens toi-même, avec ta femme, la lutte contre la ségrégation raciale. Dans l'ombre, avec l'efficacité et la discrétion du diplomate, tu organises une rencontre historique entre l'un des chefs des Black Panthers et le sénateur Robert Kennedy.
I have some very sad news for all of you, and I think sad news for all of our fellow citizens and people who love peace all over the world. And that is that Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis, Tennessee.
Tu es à Chicago dans un taxi qui t'emmène dîner. Le chauffeur est un noir. Jean devient tellement pâle que par contraste, il te paraît encore plus noir. Agrippé au volant, il te demande de lui répéter l'adresse. Tu lui répètes. Il continue à rouler droit devant lui. Puis, d'une voix étouffée.
What was the address again? Quelle adresse vous dites? Ce n'est pas la peine de répondre. J'attends qu'il se ressaisisse. Nous tournons en rond autour des cerisiers en fleurs, baignés de tous côtés par la lumière des projecteurs, qui leur donne un air irréel de balai pétrifié. Quelle adresse vous avez dit? Est-ce que c'est un blanc qui l'a tué ? Demande Jean. Malcolm X avait été tué par les Noirs. Les musulmans noirs. L'organisation dirigée par cette vieille pute d'Elijah, qui a engrossé je ne sais combien de ses fidèles, et que la marche triomphante de Malcolm commençait à menacer. Ça va sauter. Ça saute dès le lendemain. À 2 heures de l'après-midi, on compte déjà près de 700 incendies, dont plusieurs à 2 rues de la Maison-Blanche.
Pour toi, cette ruée au pillage est la réponse naturelle d'innombrables consommateurs que la société de provocation incite de toutes les manières à acheter sans leur en donner les moyens.
J'appelle société de provocation toute société d'abondance et en expansion économique qui se livre à l'exhibitionnisme constant de ses richesses et pousse à la consommation et à la possession par la publicité, les vitrines de luxe, les étalages alléchants, tout en laissant en marge une fraction importante de la population, qu'elle provoque à l'assouvissement de ses besoins réels ou artificiellement créés, en même temps qu'elle lui refuse les moyens de satisfaire cet appétit. Deux grands magasins du genre bon marché sont en train de brûler à la périphérie du quartier noir. Incendie criminel. Dans la salle d'attente, quelques passagers noirs et blancs regardent la fumée monter sur l'écran de la télé. Nous regardons les magasins cramés à l'écran. Ça date de ce matin, c'est tout frais, et je me sens bien. Je me sens bien parce que j'aime l'Amérique. Je suis heureux de voir qu'elle bouge, qu'elle a mal, qu'elle va peut-être se réveiller. Je ne sais pas ce que sera la nouvelle Amérique, mais je sais que l'explosion noire l'empêchera de pourrir sur pied dans l'immobilisme des structures sclérosées aux sapes invisibles. L'Amérique sera sauvée par le défi noir, ce challenge dont parle Toynbee, que les civilisations relèvent en se transmutant, ou bien elles périssent.
Comme tu avais raison. J'aurais aimé que tu sois là pour assister à l'élection de Barack Obama, le premier président noir des États-Unis d'Amérique. Maybe the last time.
When your blue breeze. Oh, I don't know. It may be the last. Shake hands with your best friend. You might never, never, never see them again.
Do you?
Ah! Hey, hey, help me somebody.
De l'autre côté de l'Atlantique, à Paris, c'est mai 68. Tu sautes dans le premier avion pour y assister, aller voir de plus près, après les Américains, comment les Français s'en tirent avec la Révolution.
Je trouve Paris toute tripe dehors, débordant de détritus, dans un immense élan de sincérité. On dirait que la Révolution fait passer la ville aux aveux. Devant le Bon Marché, où il y a un chantier, ils ont mis le feu aux tonneaux de goudron et des silhouettes gesticulantes s'agitent autour du brasier. Sur le fond puant et grésillant des flammes, j'aperçois un noir qui porte une calotte nigérienne et un bourdaka de Zambie avec sur le dos les mots « screw you » en caractère psychédélique. Il gueule. « Burn, baby, burn. Brûle, bébé, brûle. » Entendre ce cri de guerre du Black Power américain à Sèvres-Babylone me donne chaud au cœur. Éveille en moi une nostalgie que seuls peuvent comprendre ceux qui ont laissé là-bas très loin à Beverly Hills une piscine chauffée, une Oldsmobile air-conditionnée et 14 chaînes de télévision, sans compter les chaînes éducatives. Burn, baby, burn. Chaque fois que je vois un Américain à Paris, j'éprouve un élan de sympathie. Il lève les bras, brûle. Et il est tout près de la vérité, cet Américain, face à la flamme française. Car pour moi, aucun doute, lorsque nos CRS se jettent en avant, matraquent au poing, à Sèvres-Babylone, c'est au ghetto américain qu'ils ont affaire, au Vietnam, au Biafra, et à tout ce qui crève de faim sur la terre. La révolte de la jeunesse de Paris s'inscrit tout naturellement dans ce récit, parce qu'elle ne vise aucune situation sociale spécifique. Elle les vise toutes. Ces points français serrés, ces points blancs, ce sont aussi des points noirs. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Juin 1968. La série noire continue.
It was Mutual reporter Andrew West who attempted to interview the senator just after Kennedy made his concluding remarks to a victory celebration and began to move out of the ballroom.
Senator, how are you going to counter Mr. Humphreys and his backgrounding you as far as the delegate votes go?
We can just go and start to struggle for it.
Senator Kennedy has been shot. Is that possible?
No!
Is that possible?
It could be.
Is it possible, ladies and gentlemen? It is possible. He has. Not only Senator Kennedy. Oh, my God. Senator Kennedy has been shot. And another man, a Kennedy campaign manager, and possibly shot in the head. I am right here. Rafer Johnson has a hold of a man who apparently has fired the shot. He has fired the shot. He still has the gun. The gun is pointed at me right at this moment. I hope they can get the gun out of his hand. Be very careful. Get the gun. Get the gun. Get the gun. Stay away from the gun.
Get the gun.
Stay away from the gun. His hand is frozen. Get his thumb.
Après JFK, Martin Luther King, Malcolm X, le sénateur Robert Kennedy, frère cadet de John, est assassiné à Los Angeles, dans l'hôtel où il célèbre la victoire qui devait le mener à la Maison Blanche.
Look out for the gun. Okay.
Bobby Kennedy, comme tu aimais l'appeler, tu l'avais aussi rencontré. C'était à Malibu. Il avait interrompu pour un ou deux jours sa campagne électorale contre McCarthy. Tu l'avais trouvé nerveux, préoccupé, insecure, comme on dit ici. Depuis l'assassinat de King, les choses s'étaient envenimées. Tu lui avais demandé quelles précautions il prenait contre un attentat éventuel.
Il n'y a aucun moyen de protéger un candidat pendant la campagne électorale. Il faut se donner à la foule, et à partir de là, il faut compter sur sa chance.
Tu te souviens de l'avoir entendu rire alors, secouant sa mèche juvénile qui lui retombait sans cesse sur le front.
De toute façon, il faut avoir de la chance avec soi pour être élu président des États-Unis. On l'a ou on l'a pas. Je sais qu'il y aura un attentat un jour ou l'autre. Pas tellement pour des raisons politiques, par dérèglement. Nous vivons à une époque d'extraordinaire contagion psychique. Parce qu'un type tue Martin Luther King ici, un contaminé à Berlin va immédiatement tenter de tuer un leader des étudiants allemands.
Vous savez, ce qui a joué au fond contre Bobby Kennedy, c'est le caractère provocant de son personnage et provocant tout à fait indépendamment de sa volonté. Il était très jeune, il avait un avenir politique immense, il était beau, il était extrêmement riche. Toutes les fées s'étaient semblaient pencher sur son berceau. Et comme l'Amérique est à l'avant-garde de beaucoup de choses, elle est également à l'avant-garde de la névrose. Et la personnalité persécutée moyenne de l'Américain atteint de complexes paranoïaques ou d'infériorité ne pouvait supporter la personnalité Kennedy qui, pour elle, était trop. Il la mettait, et chaque paranoïaque, chaque persécuté en Amérique, il y en a des centaines, des milliers, des millions peut-être même, se sentait personnellement visé par cette extraordinaire réussite qu'est Kennedy. Et je crois que ça a joué un rôle déterminant aussi bien dans l'assassinat du président Kennedy que dans l'assassinat de Bobby Kennedy.
Ce triste soir de juin 68, personne ne sait où tu te trouves. Pas aux États-Unis en tout cas. Adieu l'Amérique, adieu Gary Cooper comme tu l'as écrit. Adieu Hollywood, qui n'a su te donner ta chance. Adieu surtout, Jane Seberg. Le chapitre américain de ta vie se referme avec la disparition de ton ancienne épouse.
Un corps en décomposition, enveloppé dans une couverture, est déposé sur la banquette arrière d'une petite Renault stationnée dans une rue de Paris. Ainsi a fini l'actrice Jane Seberg, la mystique Jeanne d'Arc d'Otto Preminger ou la radieuse vendeuse de journaux américains d'À bout de souffle de Jean-Luc Godard.
C'est la fin du trajet pour toi, Romain. Tu te sais arriver au crépuscule de ton existence.
Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable.
Comme tu titres une de tes dernières nouvelles. Tu ne supportes pas de vieillir, or ta vie se rétrécit désormais comme une peau de chagrin. Tu es d'ailleurs déjà vieux, depuis longtemps, depuis que tu as rencontré cette jeune femme qui aurait bien pu être ta fille. Elle t'aurait fait passer pour un pervers si tu n'avais été profondément amoureux d'elle, d'une admiration sans bornes, totale, pour ce qu'elle était. Ta passion pour Jean avait perduré au-delà de votre séparation, dans une forme d'amour filial. Tu l'épauleras fidèlement dans sa maladie, la soutenant financièrement, la tirant des griffes d'escrocs qui tâchaient toujours de profiter de sa fragilité.
La seconde de nos informations dites générales et appelée à avoir un certain développement, c'est la suite à donner à la mort de Jane Seberg, une mort qui aura, je crois, beaucoup ému ceux qui ont aimé les débuts puis le combat difficile de cette actrice pas comme les autres. Voilà ce soir que son deuxième mari, l'écrivain Romain Gary, lance une accusation grave, je la résume, tout cela est de la faute du FBI. Et Romain Gary doit ressortir une vieille histoire à laquelle nous n'avions pas voulu donner d'importance à l'époque, car elle nous paraissait être du domaine du ragot. Jean Seberg avait eu il y a quelques années un enfant et une partie de la presse américaine avait dit « c'est un petit noir, c'est le fils d'un dirigeant des Black Panthers ». C'était faux, le bébé était blanc, mais traumatisé par cette campagne de presse, Jean Seberg avait donné naissance à un mort-né. Et depuis ce jour-là, tout a craqué dans la vie de l'actrice. Chaque année, à l'anniversaire de cette fausse couche, elle tentait de se donner la mort. Et si Romain Gary a décidé aujourd'hui d'accuser le FBI, c'est à la demande de leur fils commun, Diego, 15 ans.
Les journaux se sont étendus sur le fait qu'elle était schizophrène, qu'elle était dingue, qu'elle était folle, qu'elle se droguait, que ceci, que cela. Personne n'a vérifié. Parce que moi, je vais vous dire qui a assassiné Jean Seberg. Jean Seberg a été détruite par les FBI. Yeah, vous savez, vous pouvez imaginer qu'il s'agit de paranoïa, de je ne sais pas quoi, de n'importe quoi que je raconte, etc. Mais je vais vous donner lecture de quelques passages du document. Voilà. Document. Le directeur du FBI, section Los Angeles. Sujet contre-intelligence, programme des nationalistes noirs. Black Panther Party. Nous voulons informer, faire passer dans la presse une information to cheapen her image, c'est-à-dire pour abaisser et pour salir son image. Auprès du grand public, note, Jean Seberg a été financé, a été support financier des Panthères Noires et comme tel doit être neutralisé, document officiel du FBI.
Ton obsession de la mort te viendrait-elle finalement de Los Angeles, tombeau de tes rêves déchus? Dans la nouvelle posthume à bout de souffle, tu décides d'en faire le cadre de ton propre assassinat. Pour mettre fin à tes jours, tu fais appel à un tueur à gages, sans l'informer sur ton identité. En attendant la mort, tu as encore quelques heures à tuer. Tu entres dans un fast-food sur Sunset Boulevard.
Pour commencer, je me dois d'avertir le lecteur français qu'il n'existe pas dans cette langue d'équivalent au terme américain « motherfucker ». J'en ai parlé avec mon ami Edmond Glenn, un des plus grands experts qui soit de la communication entre les cultures. Et nous sommes tombés d'accord pour dire qu'il est tout à fait impossible de rendre en français des mots tels que « motherfucker », « cockfed », etc., qui, de nos jours, sont si essentiels à la pleine compréhension de la littérature et de la jeunesse américaine. Je n'essaierai donc même pas de traduire le terme « fuckburger », que je vis écrit à la craie sur le panneau affiché devant le snack à hamburger du Sunset Strip. Je me suis dit évidemment qu'il s'agissait d'une variation du cheeseburger ou du hamburger. Mais si cheeseburger signifie que l'on a ajouté du fromage à de la viande hachée, qu'est-ce au juste que l'on ajoute pour faire un fuckburger? Je n'en sais rien. Sans doute fallait-il entendre quelque chose de particulièrement délicieux. J'entrais donc, intrigué par l'endroit, et non sans être animé de certaines espérances. Il est encourageant à l'âge de 53 ans, et après une vie bien remplie, de tomber sur une nouvelle espèce d'espoir ou de promesse d'expérience encore inconnue. La nouvelle jeunesse américaine avait très bien pu se porter au-delà de nos rêves les plus fous et y avoir trouvé quelque chose. J'entrai et commandai, plutôt timidement, une tasse de café, attendant d'être entrepris. Avec mes cheveux gris, les rides sur mon visage, la rosette de commandeur de la Légion d'honneur que je portais à la boutonnière, tous les traits distinctifs de celui qui n'est plus dans le coup, on ne peut pas demander un fuckburger de but en blanc. On n'a pas envie de se faire traiter de vieux cochon.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're strange, no one remembers your name. When
Le 2 décembre 1980, tu te tues à Paris, d'une balle dans la tête, avec ce revolver que tu avais acheté à Los Angeles.
Je me suis bien amusé. Au revoir et merci.
Laisses-tu en guise d'explication, ajoutant plus loin.
Rien à voir avec Gene Seberg.
Pour faire une remarque générale à propos du problème noir qui concerne l'Amérique. On ne peut pas extrapoler, il est totalement impossible d'extrapoler de l'Amérique d'aujourd'hui à l'Amérique d'ici 50 ans ou un siècle. Alors qu'on pouvait le faire avec la France depuis pas mal de siècles déjà, grosso modo. L'Amérique est encore avant son point de fusion, de cristallisation historique et il est totalement impossible de dire ce qu'il en sortira. Moi, je suis extrêmement optimiste parce que c'est le premier pays du monde, le premier pays dans l'histoire de l'humanité qui se pose collectivement le problème de ces crimes. Ça ne s'est jamais vu. Vous avez dit ça pour le Vietnam, on le voit pour le problème noir et pour tout le reste. L'Amérique a ceci d'extraordinaire et d'unique dans l'histoire qu'elle dit qu'elle se sent coupable. Or, moi je le dis et je le répéterai toujours, le premier signe d'une civilisation, c'est qu'elle se sent coupable envers l'homme. À ce sens, l'Amérique me donne tous les espoirs. Ça, c'est un pays à l'état aigu où quelque chose est en train de naître.
C'était Les aventures américaines de Romain Gary. Deuxième épisode, Des créatures d'Hollywood de Panthère Noire, par Yann Perrault. Attaché d'émission, Inès De Bruyne. Coordination, Irène Omelianenko. Documentation INA, Annie Lozana. Lecture, Olivier Martineau. Mixage, Philippe Brodin. Réalisation Rafik Zemine. Remerciements Myriam Anisimov, Dominique Bonnat, Emmanuel Perrault.
Demain, rendez-vous à 23h pour l'ACR, qui accueillera Le cauchemar merveilleux par Léonore Mercier et Arthur H. Et tout de suite, les Nuits de France Culture avec Philippe Garbi.